I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séances Radio.
Bonsoir, bienvenue dans cette grande séance et bienvenue sur Séance Radio pour ce mois de décembre, ce mois de fête de Noël, où évidemment on est très heureux d'aller au cinéma, où on va y aller sans doute de plus en plus pendant les vacances qui s'annoncent. Que vous connaissez le principe, nos blogueurs seront là, Alexis Yomet 2, et on en parlera tout à l'heure, Revue et Corrigée, c'est un nouveau site, et de Clone Web. Et Marla Singer de Marla's Movies. Bonjour à tous les deux.
Bonsoir Bruno, ravi de te voir.
Alors, nos invités, eh bien ce sera les invités de l'année 2017, car nous avons voulu vous offrir un best-of. Un best-of, tous les invités étaient bien, mais il a fallu en choisir quand même quelques-uns. Et tout à l'heure, nous allons les écouter à travers différents extraits, les extraits les plus passionnants qu'ils nous avaient offerts. On parlera de Luc Besson, on parlera d'Ahmed Silla, de Maurice Barthélémy, tous des films qui nous ont plu et dont nous avions parlé ici dans Séance Radio. Le sommaire de l'émission, vous le connaissez, on va faire les tops et les flops, et vous verrez que malheureusement le marché du cinéma n'est-ce pas Marla hein,
c'est compliqué.
Hélas. Il est compliqué. Et nous sommes aujourd'hui mercredi, un jour de sortie, et il va être troublé, je vais pas dire parasité parce que ça aurait l'air négatif, il va être troublé par la mort de notre héros national Johnny Hallyday, et je pense à Alain Chabat qui a son film Santa et compagnie, qui est un excellent film qu'il faut aller voir pendant les fêtes, parce que c'est vraiment un film pour tout public de 7 à 77 ans. Évidemment, quand un film sort, je pense aussi aux Gardiennes de Xavier Beauvoir, avec Laura Smet et Johnny Hallyday, et c'est vrai, Laura Smet et Johnny Hallyday, Laura Smet et Nathalie Baye, qui sont à l'affiche de ces Gardiennes de Xavier Beauvoir et qui sont en deuil aujourd'hui. Évidemment, ce jour de sortie cinéma va être troublé par ce deuil qu'on peut dire tout à fait national. Nous aurons également notre blind test, évidemment spécial Alain Chabat, avec la sortie de Santa et compagnie. Les événements, on parlera du Festival Européen des Arts, qui est de plus en plus intéressant et passionnant, avec beaucoup de films projetés, une centaine, et un beau jury. Et puis, le débat, c'est quel bilan pour l'année cinéma 2007 chez vous? Si vous écoutez cette émission, faites vos propres bilans, car il y a du bon, il y a du moins bon, mais l'année était plutôt favorable en général, et on verra les chiffres juste à la fin de l'année, on verra si on bat ou non les 213 millions d'entrées de l'année dernière, qui était une des années records. Oui Alexis, vous faites la moue, c'est pas sûr.
C'est pas gagné. Sûr, hein.
Quoi, 205, 208, 210?
Bah, vu déjà ceux qui sont à la tête du box-office en 2017, là, par rapport à 2016, on est quand même en dessous, bien en dessous. Là.
Alors, est-ce que Star Wars, est-ce que Paddington 2, est-ce que le Chabat...
Star Wars,
avant la fin décembre, il sort quand le Star Wars?
Il sort la semaine prochaine, mercredi.
Bon, donc il a le temps de faire du chiffre et d'engranger des millions de spectateurs, le Chabat aussi, qui sort le 6 décembre, et puis Paddington, en général, ça cartonne aussi. Hein.
Ça peut le premier a bien marché. Ouais.
Et il y a Coco.
Et oui,
qui est en train d'engranger pas mal d'entrées, le dernier Disney. Voilà, dans un instant, les tops et les flops du box-office.
La grande séance, le box-office.
Alors, côté français, on peut dire que c'est le brio d'Yvan Attal. Vous vous souvenez que son dernier film, Son Partout, n'avait pas du tout marché. Eh bien, son film avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil, le brio, est actuellement environ à plus de 700 000 entrées.
C'est pas mal
du tout. C'est vraiment bien pour Yvan Attal, qui doit être assez heureux. Et le film est en deuxième semaine. Et puis, je voulais faire un coup de chapeau à Nawel Madani, dont c'est le premier film, cet humoriste assez pleine d'énergie, assez extraordinaire et qui est formidablement sympathique, puisque son film C'est tout pour moi, en première semaine, est environ à 300 000 entrées, ce qui pour un tout premier film est assez remarquable.
Elle a une fanbase formidable et ils l'ont suivi en fait.
Absolument. Le
film a été très très bien communiqué, si j'ose dire, marketé, et effectivement les fans de Nawel Madani se sont pressés en salle
et
ont
fait
très belle critique sur Allociné aussi.
Marla, moi je ne la connaissais pas, j'ai vu son film au Festival de Sarlat, je l'ai croisé et franchement j'ai trouvé que son film était plein d'énergie, joliment fait, sans aucune vulgarité, vraiment plein de peps. Ça m'a fait penser à un Tout ce qui brille de 2017 un peu dans
La Bonne Surprise.
Bonne Surprise, donc c'est un bon film, allez le voir, il est évidemment toujours à la fiche. Dans les flops, malheureusement, j'en ai mis que trois, mais il y en a une flopée, sans faire de mauvais jeu de mots. Anne Fontaine, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, on est obligé de reconnaître que son film ne marche pas, puisque on est à un peu plus de 85 000 entrées en deuxième semaine pour Marvin et la Belle Éducation.
C'est
dommage, hein, parce que c'est un beau film qui dit de très belles choses et qui est superbement mis en scène. Plonger, le film de Mélanie Laurent qui on la connaît, réalisatrice pleine de talent, qui avait fait ce merveilleux documentaire Demain. Plongée ne marche pas. Il est à plus de 22 000 entrées en 5 jours, mais ça marche pas bien, ça a mal démarré. Et Madame d'Amanda Ster, qui est en deuxième semaine, je crois, est environ à 82 000, 90 000 entrées. Là aussi, ça marche pas. Un commentaire.
Dommage aussi, parce que Rossi de Palma, Marla. Carla, c'est quoi cette
Amanda,
histoire?
Un commentaire.
Oui, alors, c'est dommage, parce que Rossi de Palma, Rossi de Palma, dans un rôle comme ça, c'est assez rare, hein, cette espèce de princesse malgré elle, comme ça, qui est dans un rôle d'imposture tout à fait jubilatoire, et c'est dommage que les gens suivent pas, effectivement. Ouais. On s'était rendu compte sur le blog aussi, avec l'article de mon co-rédacteur, que.
C'est plutôt
réussi, Amanda. Asters au départ est romancière, hein. Oui. elle n'est pas cinéaste au départ, mais elle s'en sort bien, c'est bien ficelé, donc pourquoi pas.
Oui, mais le film a peut-être manqué de visibilité. Plongée, par exemple, le film malheureusement a manqué de visibilité, parce que vous le savez, il y a entre 17 et 20 films qui sortent par semaine, hein. Il y en a eu 713, c'est incroyable, en 2016 qui sont sortis, et Plongée, les gens ne savent peut-être même pas qu'il existe, donc
j'en ai pas entendu parler.
Et pourtant Gilles Lellouche a fait de la promo, malgré son tournage du Grand Bain. Côté américain, le seul vraiment top, c'est Coco,
qui
a environ 1 million d'entrées, donc qui a bien démarré. Vous l'avez vu, Marla?
Oui, alors moi j'ai eu la chance de le voir en avant-première, en plus au Grand Rex, avec un spectacle
super surprise
à la fin, avec des mariachis qui sont venus nous voir et qui nous ont fait un concert live avec la musique. C'est pas un grand Pixar, c'est pas aussi bien que Là-haut, c'est pas aussi bien que Vice Versa, qui était carrément.
Moi je préfère largement Coco à Vice Versa.
Tu préfères Coco à Vice Versa? Explique-moi.
Il y a au moins des mariachis, quoi.
Il y a des mariages, d'accord. Vice versa, c'est peut-être parce que je suis un télo et nostalgique, comme ça, de l'enfance, des jouets.
Oui, mais ça a l'air assez. Coco, c'est un sujet fort.
Oui,
et sombre, sombre, mais.
Ah, si, c'est sombre,
assez.
On peut le dire.
Moi, je l'ai pas vu, mais c'est ce qu'on m'a dit.
Pour un Disney, c'est assez neuf. On parle de la fête des morts au Mexique, qui est très très célébrée, qui est très différent du Halloween français, qui fait souvent un peu un flop, faut le dire.
Ouais.
Les Mexicains ont vraiment un sens de la célébration des ancêtres.
Ouais.
Et effectivement, Disney parle de ça pour une fois et ça change.
Ouais. Vous dites le Halloween français fait un flop, c'est normal. Halloween, Halloween, c'est une fête américaine et les Américains ont essayé de l'exporter, de nous l'asséner. Moi, je suis content que ça marche pas bien, Halloween.
Ouais, mais ça marche bien.
Mardi Gras, moi.
Ça marche bien dans d'autres pays européens. À Dublin, c'est un vrai phénomène.
Les pays anglo-saxons surtout. Alors voilà pour Coco. Alors dans les flops, moi j'ai mis, même si c'est pas un réalisateur qui fait des cartons, mais c'est un excellent réalisateur, Todd Haynes, son Musée des Merveilles, vous aviez aimé, vous?
Non, j'avais pas aimé, c'était Claire qui avait bien aimé.
Ah, c'est Claire qui avait bien aimé, moi j'avais pas aimé non
très
plus.
Très déçu après Carole, qui était tout simplement miraculeux.
Carole, il avait pas mal marché, il avait fait quoi, 300-400 000 entrées?
Alors moi j'avais pas les chiffres de l'époque, mais je trouvais que c'était vraiment lumineux. Il avait marché par bouche à oreille.
C'est ça, et là 96 000, c'est pas un carton. Et puis malheureusement, on en dira un mot tout à l'heure, des films de Cannes qui n'ont pas bien marché cette année dans ce cru de Cannes. Il y a vraiment ça a ouais, vraiment beaucoup, pas bien ouais. marché. Non parce que The Square n'a pas dépassé les 500 000 entrées. Robin Campillo, il est allé assez haut, je crois, pas loin de 800 000, je crois.
Pas tellement
encore, ouais, 120 battements par minute. Et puis les autres, alors justement, A Beautiful Day, le film de Lynn Ramsey que moi j'ai adoré.
Ah oui, je vois la fiche.
Il est à moins de 150 000 à entrer. Ah, et ouais. Voilà, pour un film cannois qui avait eu un prix d'interprétation pour
notre et prix du scénario aussi.
Et prix du scénario. Voilà. Ah, oui, non. C'est Mise à mort du cerf sacré, oui, qui n'a pas du tout marché d'ailleurs. Voilà pour les tops et les flops. Et c'est vrai que le marché du cinéma en ce moment est un peu mou. Allez au cinéma, il fait mauvais, il fait froid et les salles de cinéma sont chauffées. Allez-y, je vous en prie.
La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
Alors, avant de commencer, mon cher Alexis Yomet, juste un mot pour pas qu'on oublie, CloneWeb on connaît, mais c'est quoi Revue et Corrigée?
La Revue et Corrigée, en fait, c'est un projet que j'ai monté avec d'autres amis journalistes depuis le mois de mai, où en fait, nous prévoyons pour l'année prochaine, on croise les doigts, on fait en sorte que ça va se faire, de préparer un MOOC consacré exclusivement
c'est
à
quoi, un MOOC.
Un MOOC, c'est un beau magazine, on va dire, un beau magazine. Ça veut dire, c'est il y a plein de revues comme 21 qui existent. Donc c'est un bel objet, c'est un bel objet qu'on a dans la main, qu'on aime bien garder, collectionner, et qui ne serait consacré exclusivement qu'à l'actualité du cinéma de patrimoine.
D'accord.
Étant donné que c'est un monde qui bouge énormément, il y a beaucoup d'actu, que ce soit au niveau des techniques de restauration, des films qu'on découvre, des festivals, enfin.
Les festivals Lumière, à Lyon.
Voilà, même il y a Cannes Classics, il y a les Cinéma Retrovato qui est à Bologne, enfin, il y a énormément de choses qui se passent dans ce monde-là.
Et il y a des beaux coffrets de films restaurés qui sortent, notamment pour
Noël,
Clouseau, Melville, il y en a dans tous les sens.
Ouais. Bah, le J'accuse d'Abel Gance, ouais. qui est par Gaumont.
Il y a un coffret Hitchcock.
Oui, aussi, voilà. Qui a été réédité. Enfin, voilà, il y a tellement de choses qui se passent sur le cinéma de patrimoine qu'on s'est dit, il n'y a pas un média qui réunit toutes les dates et tout ça. Souvent, c'est un petit peu perdu sur le cinéma. Donc, on s'est dit, on va créer un média qui réunit tout ça. L'idée, c'est de créer un MOOC pour l'année prochaine. Sur papier.
Et pour le moment, c'est un site qu'on peut consulter.
Voilà, on a ouvert le site il y a deux semaines à peu près et on essaie de suivre un petit peu l'actualité par rapport à ça, donc aux événements, oui.
Pour trouver le site, on fait quoi?
Revueetcorrigee.net, tout attaché.
D'accord.
Voilà.
Revueetcorrigee.net, tout attaché.
On retient, ouais.
Voilà. Alors, puisque je vous tiens, vous avez un coup de gueule.
Eh oui.
Contre qui?
C'est Noël. Oh, pas contre quelqu'un en particulier. Non, c'est le traditionnel top 10, puisque là, déjà, en plus, il y a des tops de partout sur les réseaux sociaux. Et là, c'est le fameux top 10 des cahiers du cinéma, qui est déjà sorti, alors qu'on est début décembre.
Bah ouais, mais il y a une histoire de délai, hein. Bon, mais bon.
Ouais, évidemment.
C'est compliqué, hein.
Voilà,
ouais.
C'est toujours compliqué avec les histoires de bouclage. Mais bon, on a encore 4 semaines, mais le top 10 des cahiers de cinéma est déjà fait. Bon, au niveau de la date, je ne peux rien dire. Après, on retrouve évidemment le traditionnel Aung San Suu et Bruno Dumont dans le top 10,
ouais.
Comme chaque année à peu près.
Pourquoi pas.
Mais mon vrai coup de gueule qui me dérange un peu, c'est leur numéro 1, tout simplement, parce que c'est Twin Peaks.
Et qui n'est pas un film de cinéma.
Non, c'est réalisé par
David. C'est un peu de la provoque, ça.
C'est un petit peu, oui, un petit peu un top of the trolls, puisque en plus, qui on
en
a
numéro
en couverture.
Numéro 1 du top 10 de cinéma, on met une série.
Ouais.
Voilà.
Et en plus, en couverture, qui on a David Lynch pour une interview exclusive. Enfin, c'est plutôt pas mal.
Ouais,
est-ce que c'est pas parce que les cahiers du cinéma aiment beaucoup David Lynch et ont tendance sans arrêt à faire sa promotion?
Mais là où c'est de la provoque, c'est qu'on essaie de. Enfin, on va jamais défendre le cinéma contre les séries. Alors, on peut toujours dire, et j'imagine ce qui vont dire que c'est du David Lynch, c'est une série mais c'est du cinéma, comme après tout le film sur le pape, là, The Young Pope, vous vous souvenez, c'était très beau, c'est du cinéma de Sorrentino. On peut dire que c'est du cinéma parce que c'est filmé cinéma, mais ça reste une série. Donc eux, c'est ils jouent sur les paradoxes.
En plus, Stéphane Delorme, justement, il précise dans son édito que la série, justement, je commence déjà à m'en mêler, a été élue à l'unanimité de la rédaction pour être le numéro 1, et que, je le cite, David Lynch donne naissance à un film, entre guillemets, de 18 heures selon ses propres mots, un film morcelé en différentes parties prenant l'apparence d'une série divisée en épisodes. Donc apparemment, c'est un film de 18 heures qui prendrait l'apparence d'une série.
Ah oui, c'est un film de 18 heures déguisé en série.
Exactement.
Pas bête. Donc, mais à ce moment-là, il faut être clair, il faut dire top 10 des films de cinéma et des séries.
Parce oui, que, voilà. Voilà. Oui.
Parce qu'après, on va, trouver, on va trouver d'autres séries qui ont la classe de certains films.
Qui sont très très bons. Ouais. Là, j'ai découvert Flesh and Bone qui était sorti en 2015, qui est remarquable.
Mais même Mindhunters qui est sorti, qui est en partie réalisé et lancé par David Fincher. Enfin voilà. Oui. Évidemment, il y a des réalisateurs qui se lancent dans la série, mais après, ça joue justement ce jeu un peu trouble aujourd'hui où on regarde justement des films et des séries indifféremment, comme des consommateurs compulsifs, ouais, et très absolument. Souvent sur l'écran le plus petit, qui est souvent un téléphone portable.
Donc, parce qu'il était, il n'était pas au cinéma.
Oui, c'est la question.
Pour ceux qui étaient à Cannes, pour les privilégiés.
Oui, mais j'aurais bien aimé avoir un digest de ces.
Qui ont vu les 18 heures à Cannes alors
de ces 18 heures, ouais, non, bah, il y en a, ouais, moi j'ai pas vu.
Voilà, ça a été diffusé en plusieurs morceaux.
Voilà, on a déjà assez de films en compétition à voir et en compétition. Mais merci Alexis.
De rien.
Alors, Marla, coup de cœur et pour Marilyn de Guillaume Gallienne et pour Battle of Sexes de Jonathan Dayton, Valérie Vrissier. Alors, on commence par Marilyn de Guillaume Gallienne.
Alors, on parlait
aucune réserve.
Pas du tout. On parlait des tops et des flops en tout début d'émission. Je suis navrée pour Guillaume Gallienne parce
qui
que
Marilyn
n'a pas été vue malheureusement, alors qu'il est très joli, vraiment très réussi. Ouais. J'aime beaucoup l'actrice principale. Je la trouve vraiment douée. Je comprends que
Gallienne est
absolument que Guillaume Gallienne ait eu le coup de cœur comme ça pour cette actrice là. Moi qui connais un petit peu le milieu du théâtre, pour avoir suivi des cours de théâtre avec des gens qui écrivaient des pièces, qui essayaient de les monter de toute leur force, c'est très très bien vu sur le langage qu'on entend.
Il faut vous rappeler l'histoire.
Oui, je vais vous faire le pitch, pardon. Marilyn, c'est une jeune femme qui sort de sa province natale, vraiment perdue, hein, un village perdu, on ne sait pas tellement d'où elle vient d'ailleurs, et elle monte à Paris, comme tant d'autres, pour tenter sa chance dans le théâtre. Elle tombe sur un réalisateur qui n'est pas très fréquentable, elle a une mauvaise expérience, et c'est les déboires, en deux mots d'ailleurs,
d'une jeune femme qui n'a pas vraiment les mots pour s'exprimer, qui est un peu, c'est ça son problème.
Oui, c'est Gallienne qui disait ça, que c'était un film sur les taiseux. Il voulait faire un film sur les gens qui ne parlent pas, effectivement. Et c'est une femme, d'ailleurs c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'elle est actrice, donc elle est payée pour dire un texte, pour dire les choses, et les émotions ne sortent pas d'elle alors qu'elle en a plein à partager. Voilà. C'est un film là-dessus, et c'est magnifique.
C'est bien de le défendre, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que ma seule réserve c'était que les 20 dernières minutes replonger un peu dans l'histoire, alourdissait un peu le film, mais c'est vrai que le film
c'est marrant,
c'est
ce que je préfère, la fin.
Ah oui, c'est drôle. C'est parce qu'à la fin, il faut pas raconter, mais il y a une surprise. Voilà. Et donc, ce film américain.
Oui, alors The Battle of the Sexes, alors c'est typiquement quelque chose qu'on vend comme un film d'auteur, mais qui est suffisamment populaire pour plaire à tous, hein, pour être très très accessible, comme ça, très ouvert.
Ils avaient fait quel film avant ?
C'était les réalisateurs de Little Miss Sunshine,
c'est ça, hein,
qui
c'est
était
ça.
Déjà un très très beau bijou,
oui, un petit bijou.
De l'époque, qui vraiment, avec Juno, un petit peu dans les mêmes années, avait lancé comme ça le cinéma d'auteur, qui est généralement repéré à Sundance, comme ça dans les grands festivals américains. Et là, c'est un petit peu dans la même veine, avec le même genre de photos, le même genre de posters d'ailleurs, les mêmes genres de couleurs comme ça.
Avec Steve Carell aussi.
Avec Steve Carell
c'est bien,
qui
c'est
revient.
Drôle.
Avec Emma Stone qui joue le rôle titre, effectivement. Alors on raconte un petit peu, c'est une tenniswoman extrêmement douée. Qui a envie d'être payé comme les hommes. Quel scandale. Quelle idée de vouloir avoir la même paye que les jeunes gens. Alors l'équipe comme ça de tennis féminine va décider de jouer pour elle-même et de proposer un tournoi de tennis qui soit personnel au lieu d'aller comme ça dans les grands tournois habituels où elles sont payées 8 fois moins que les hommes.
Ah ouais. C'est drôle ou pas ?
C'est drôle, c'est très très bien vu et surtout ça donne de l'espoir. Ce qui est très intéressant, c'est que ça se passe dans les années 70, dans ces années où on va voir justement des féministes s'exprimer, qui vont paraître, alors souvent être caricaturées dans les médias, paraître un petit peu radicales, alors que là on est vraiment dans quelque chose de très caustique, avec beaucoup d'esprit. Et surtout il y a plein de références à l'actualité récente, notamment le mariage gay. Et
ah,
je
oui.
crois que c'est le genre de film qui a été fait en grand pied de nez, au président Trump.
Ah, d'accord.
Voilà.
Est-ce que le film est sorti quand,
Battle of the Sexes? Ça fait deux semaines, je crois.
À peu près une semaine.
Il marche un peu ou pas? moyen.
Bah après, je pense que le parc est
c'est
un
pareil,
peu réduit.
Hein,
je suis embêtée parce que ça mériterait tellement plus. Et puis, il y a tellement de films à voir. Et je crois que les gens avertis, comme Alexis ou moi qui sommes blogueurs et tout, je crois qu'on en a entendu parler avant. On a la chance d'être invité dans des avant-premières, dans des projos, etc. Donc on les voit, on les conseille. Et en même temps, le grand public, celui qui sera peut-être plus attiré par Coco parce que c'est Disney Pixar, n'ira pas forcément voir.
Mais là, il va rester en salle un peu quand même. Il faut qu'il reste en salle pendant les fêtes et que les gens aillent le voir pendant les fêtes.
On l'espère.
On se retrouve dans un instant pour le best-of des invités 2017.
La grande séance, l'interview.
Vous savez que chaque mois nous recevons un invité dans cette grande séance. Nous avons fait avec Sébastien Flotte un petit choix d'invités et nous allons vous les proposer. C'est assez court. On va commencer par Maurice Barthélémy qui a fait une jolie comédie qui avait d'ailleurs bien marché. Elle est sortie au mois de juin. Ça s'appelait Les Ex. C'était une histoire de six couples qui vont, qui viennent, une espèce de comédie romantique chorale. Maurice Barthélémy, vous savez, il vient des Robins des Bois. Il y avait toute une équipe, Marina Foïs, etc. Et là, il avait évidemment travaillé avec Jean-Paul Rouve et il nous parlait de cette collaboration unique et incroyable qu'il a et cette amitié qu'il a avec Jean-Paul Rouve.
La grande séance, l'interview.
Alors, c'est plus la peine de vous présenter Casablanca Driver, Papa, que tout le monde a adoré, que tout le monde a été très ému par ce film, Low Cost, qui nous a fait rire, Pas très normal activité, qui était un film bien, bien à l'ouest, et puis cette fois, Les Ex. Les Ex, quand j'étais avec Jean-Paul Rouve, la première question que je lui ai posée, ça va vous faire rire, vous l'avez peut-être dit, j'ai dit, en tout cas, je vais vous parler de votre ex, alors il a tiqué, j'ai dit, votre ex Maurice Barthélémy.
Parce oui, que c'est ça. Ah bah oui.
Avec lui, vous vous engueulez pas. Parce qu'il y a une vraie histoire.
Ah mais c'est clair. On était dans les Robins des Bois ensemble il y a 20 ans. Et on était binômes tous les deux. On écrivait ensemble. Et donc on partageait le même bureau. On partait en vacances ensemble. Donc c'est vrai que pendant 10 ans de notre vie, on s'est plus vu, lui et moi, que lui avec sa nana et moi avec la mienne.
Et alors justement, on va reparler du film. Mais j'enchaîne là-dessus. Ce qui est extraordinaire, c'est un peu comme le Splendide. Chacun fait son chemin. Ouais. Rouve, Marina Foïs, qu'on a vu dans un très beau film que je conseille à tout le monde, qui était Un certain regard.
L'atelier.
Oh là là, remarquable.
Ouais, pareil, ouais,
qui aurait dû être en compétition et qui aurait été peut-être mieux que Rodin ou en compétition. En tout cas, c'est un film remarquable de Laurent Cantet. Bref, Jean-Paul Rouve. Alors, Jean-Paul Rouve, il refuse jamais un film avec vous, hein, il m'a dit.
Non, c'est une vieille histoire. Puis on s'amuse tellement à travailler ensemble. Quoi. Moi, c'est mon but dans la vie, c'est de travailler avec mes amis. Donc, ça me vient un peu de Alain Chabat. Il y a une espèce de tradition comme ça de réunir des gens qu'on aime et qui ont du talent, évidemment, parce que je vais pas faire appel à des tocards. Mais moi, c'est ça que j'aime. C'est le plaisir, en fait. C'est hyper important pour moi, le plaisir sur un plateau, le plaisir de se retrouver avec des acteurs qu'on aime. Voilà, c'est le plaisir.
Et alors, j'ai remarqué que la distribution est très éclectique. Arnaud Ducret, avec qui vous n'aviez jamais tourné. Vous avez pris toute une génération
exactement,
d'acteurs.
Exactement.
Une génération, en fait.
Exactement, une génération un peu émergente. Alors, Ducret, il vient de la télé. Baptiste Le Caplin, Claudia Tagbo viennent plutôt de la scène et du stand-up. Moi, en fait, comme j'ai eu un parcours un peu
atypique,
j'ai pas du tout de
cases.
Exactement. Ouais. Donc moi, je prends les acteurs qui m'intéressent ou qui correspondent au rôle. On va pas se cacher, on va pas non plus complètement avoir la langue de bois. C'est sûr que d'avoir un Arnaud Ducret, par exemple, au casting, rassure énormément certaines chaînes.
Ah oui.
Et bah oui.
Ah
et
oui,
donc,
parce qu'il cartonne à la télé.
C'est dingue. Qu'il a aussi été dans Adopte un veuf qui a bien marché, etc. Donc du coup, c'est à prendre en compte, même si je suis ravi de l'avoir pris. Mais voilà, c'est une petite alchimie entre mes envies et puis il faut être réaliste aussi.
Alors, c'était Maurice Barthélémy qui nous parlait de sa comédie Les Ex, que vous pourrez retrouver évidemment en DVD. Luc Besson, c'était l'événement de l'année, Valérian, son adaptation de la célèbre BD. Le film avait coûté 200 millions d'euros. On peut pas dire que ça a été une réussite parce qu'il n'est pas rentré dans ses frais. Bon, on n'est pas inquiet pour Luc Besson. Loin de là, Alexis, oui. Mais il nous racontait, c'est terrible parce que c'est presque une nostalgie, parce que c'était la veille de la sortie et tout le monde y croyait en Valérian. Il nous racontait comment il a rencontré, il a eu un coup de foudre avec cette BD. Donc ça s'est passé il y a quelques jours à la Cité du Cinéma. Nous sommes quelques privilégiés à avoir vu Valérian à la Cité des Mille Planètes. Vous savez que c'est tiré de la célébrissime BD qui est parue en 1967 dans Pilote, imaginé par Pierre Christin au scénario, dessiné par Jean-Claude Mézières, qui sont devenus évidemment les copains de Luc Besson, même s'il y a une génération d'écart. Et Luc Besson, c'était un projet qu'il avait depuis très 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 longtemps, depuis tout jeune, il va le raconter. Et il a réussi à faire ce film incroyable, qui dure un peu plus de 2 heures. Je crois qu'il s'est inspiré d'un ou de deux albums, avec deux acteurs. Alors c'est un film français, mais en langue anglaise, avec Dan Dehan et Clara Delavine, qui jouent Valérian et Laureline, qui sont deux agents spatio-temporels qui peuvent traverser les planètes, etc., et qui doivent combattre, un peu comme dans Star Wars, pour réussir à déjouer les complots qui pèsent sur les différentes planètes. Donc je vous passe les détails. J'ai rencontré Luc Besson dans sa superbe Cité du Cinéma, la cathédrale de nef et d'acier, et la première question que je lui ai posée, c'est, après cette longue aventure, parce que c'était un rêve d'enfant de faire ce film, comment il se sent?
C'est fini, voilà, c'est j'ai terminé le Tour de France. Déjà j'ai réussi à le faire, donc non, je suis vraiment heureux d'avoir pu le faire et de le finir surtout. Donc le film maintenant dans quelques jours ne m'appartiendra plus et je suis heureux de le partager vraiment, mais c'est vraiment la satisfaction d'avoir réussi ce périple en fait.
C'est lourd, je me souviens qu'à l'époque du Cinquième Élément, je vous avais interviewé, vous parliez d'un capitaine qui doit gérer un navire dans la tempête et arriver à bon port. Quand on est devant une masse de travail pareille, on n'est pas trop impressionné?
Je pense qu'il faut se mettre des œillères, il faut faire comme avec les chevaux. Pour pas qu'ils s'affolent, il faut mettre un sac sur la tête. Donc tous les matins, j'ai des œillères et il faut regarder le film au niveau de la journée. C'est-à-dire, voilà la journée que j'ai à faire. Est-ce que je sais faire 15 plans dans la journée? Oui, je sais le faire. Est-ce que je sais gérer mes acteurs sur une journée? Oui, je sais le faire. Demain est un autre jour et on essaye simplement de faire le maximum dans cette journée-là. Généralement, on est épuisé le soir et le lendemain, il y en a une autre qui commence. Et je pense que si à un moment donné, on enlève ses œillères et qu'on regarde la taille du film, je pense qu'on a une crise cardiaque et qu'on arrête tout. Donc, il faut surtout pas lever la tête, et vraiment travailler comme une fourmi, une petite pierre par une petite pierre, et surtout ne pas trop réfléchir et en fait simplement ramener la taille du film à une taille humaine de ce qu'on est capable de faire dans une journée.
C'est bien de pouvoir réaliser ses rêves. Vous étiez gamin, vous lisez une BD, vous attendez chaque semaine pour avoir la suite, vous voyez qu'elle est signée par des messieurs que vous connaissez pas, Pierre Christin, Jean-Claude Mézières, et une trentaine d'années après, vous êtes amis avec eux, vous travaillez avec eux, et vous portez cette BD que vous adoriez au cinéma. C'est magnifique.
Oui, c'est une belle histoire. Oui. C'est une belle histoire. Ils font le premier dessin de Valérian il y a 50 ans, à peu près. Et là, il y a 3 semaines, j'ai pris une dans la salle de cinéma qui fait 400 places. On a fait une projection pour les deux. Ils ont près de 80 ans tous les deux. Ils se sont assis côte à côte au milieu du cinéma tout seuls. J'étais moi très ému, eux aussi d'ailleurs. Et je les ai regardés pendant 2 heures, regarder le film. Et c'était très émouvant. C'était vraiment très émouvant de... Je pense que leur rêve aussi à eux, c'était de se dire « Ah, qu'est-ce que ça serait bien un jour que Valérian soit un film ?» Et leur rêve, c'est aussi à eux réalisé. Donc c'est une belle histoire.
C'était donc Luc Besson qui nous parlait de Valérian, qui est sorti le 5 juillet dernier. et qui n'a pas aussi bien marché qu'il le méritait. Maintenant, on va écouter Olivier de Benoît. Vous savez, c'est cet humoriste qui est merveilleux sur scène, qui est extrêmement drôle, et le personnage est formidablement sympathique. Il était venu nous parler de son rôle dans Mon Garçon, le film de Christian Carion. Vous connaissez Christian Carion, le réalisateur de Joyeux Noël, de Une hirondelle a fait le printemps. Le film était sorti le 6 septembre de cette année. Et Mon Garçon est un film spécial, puisque Guillaume Canet jouait le rôle principal, et que, vous allez le comprendre, Christian Carion avait osé un dispositif incroyable, c'est que Guillaume Canet ne connaissait pas le scénario, tout le reste de l'équipe le connaissait, et Olivier Benoît a compris, bien sûr, et ils sont partis tourner le film comme ça, sur ce dispositif. Écoutez Olivier de Benoît qui nous explique. Christian Carion a eu cette idée dingue de faire, et bien on va mieux comprendre après comment vous avez travaillé, Olivier de Benoît, de faire répéter Mélanie Laurent, Olivier de Benoît et tout le monde sans Guillaume Canet. Tout le monde connaissait le scénario, tout le monde a répété dans l'hôtel, dans la forêt, machin, etc. Et Guillaume Canet, il est arrivé comme ça, Gare de Lyon, quand on l'a attendu, avec une feuille de route. Il savait qu'il travaillait dans une société, je sais pas quoi, de pétrole, hein. Il savait que son enfant avait été enlevé, qu'il était divorcé, que Olivier de Benoît était un peu son...
Il savait pas que je jouais dans le film.
Il savait pas que vous jouiez dans le film.
Quand on dit moteur et qu'il ouvre la porte, il me découvre.
Ah oui.
Et moi, je n'ai jamais rencontré le type. Je n'ai jamais rencontré Guillaume Canet. Pour la première fois au cinéma, vous commencez par un moteur et vous connaissez pas, et le mec sait pas que vous jouez dedans. et donc, on n'a qu'une prise aussi.
C'est ça qui est fou.
C'est-à-dire qu'en fait, il a quelque part un peu tourné le film en temps réel.
En temps réel, voilà.
Et donc, en fait, Canet, j'ai vu un type. Donc il n'a jamais attendu pendant les prises, évidemment, parce qu'on n'en faisait qu'une, et que les équipes précédaient sa venue, et donc il tournait en temps réel.
Ouais.
Et à un moment donné, avec l'émotion suscitée et la fatigue aussi du type qui vraiment recherche son môme, etc., le type ne jouait plus, c'est ce qu'il dit mieux que moi, évidemment, il incarne, il est. C'est-à-dire que tout d'un coup, on suit un type. Je sais pas pourquoi je pense tout de suite à un truc à Strictement Rien, mais Le Prix du Danger.
Je pense à ce type.
C'est un film qui m'a marqué à l'époque. Bon, mais tout d'un coup, il est dans une espèce de folie et de
filet.
Il est. Et je crois qu'à un moment donné, le type, il y croit peut-être un peu.
Ouais.
Aussi.
Son fils a été enlevé.
Oui, parce que je quand on fait moteur et que je vois ce type, ce qu'il faut effectivement expliquer, c'est que Guillaume n'a donc pas le scénario. Donc il n'y a pas de dialogue. Nous on a des dialogues qu'on avait préparés, mais comme lui n'a pas les réponses, ça servait à rien quelque part.
Ça nous permettait
d'essayer de l'emmener à un point B, ouais. Mais on est complètement
en roulis,
au moment où il dit moteur Christian, et c'est parti. Et là,
c'est-à-dire que lui, il est dans l'impro, il sait pas ce qui va arriver, donc voilà, il est dans l'impro total. C'est la première fois qu'il fait cette performance dans sa vie, il ne sait pas. Les autres savent, mais pour les autres c'est difficile, parce que quand Christian Carion dit à Olivier de Benoît ou à Mélanie Laurent, là dans cette scène, il faudrait que tu l'amènes près de la porte vitrée ou que tu fasses ça, faut qu'elle gère, et c'est pas évident parce que Guillaume Canet peut partir dans un autre sens. Et alors il fallait que les équipes soient partout. Il y en avait une dans la forêt.
Beaucoup de répétitions, même si avec les lumières, etc., ils sont arrangés, etc. Mais c'est vrai que je trouve honnêtement, j'ai été extrêmement fier d'être dans ce film, et surtout c'est une expérience
incroyable.
Parce que moi j'aime bien que dans le cinéma on tente des trucs.
Par contre,
pour vous c'est quand même pour un premier film, c'est pas l'expérience la plus simple possible.
Pour votre premier film au cinéma, vous connaissez pas Guillaume Canet, dont vous êtes fan, et la porte s'ouvre, on dit moteur, et la scène commence. il faut pas se planter non plus, parce que lui, il a pas de texte, donc il peut pas faire d'erreur. Moi, évidemment, dès le départ, il va ailleurs que ce qui était prévu. Donc, ce que j'avais à dire n'avait plus aucun intérêt. Donc, il faut que je sois aussi. Donc, je suis complètement décontenancé également. Donc,
mais comment on se prépare à ça alors?
On se prépare parce que j'avais répété avant, mais sans lui, mais simplement. Donc, j'avais imaginé toutes les situations et je m'étais beaucoup préparé. J'avais paré à peu près à tout ce qui pouvait arriver. Évidemment, ce qui est arrivé, c'était totalement différent, mais j'étais en confiance.
Et voilà, c'était Olivier de Benoît, toujours aussi sympathique, qui nous racontait ce dispositif incroyable qui a été choisi par Christian Carion pour le tournage de Mon Garçon, le film qui a pas mal marché d'ailleurs. Et j'ai rencontré Christian Carion au Festival d'Arras, il faisait partie du grand jury. Et c'est un homme extrêmement chaleureux, extrêmement sympathique. David Funkinos. Son film marche bien d'ailleurs, hein. Pas mal quand même. Je crois qu'il est autour de 600-700 000 entrées.
Ouais, c'est bien. Jalouse.
Qui le mérite. Il est encore en salle, alors foncez le voir. Il nous avait fait le plaisir de venir, j'ai envie de dire, au déboté dans cette émission à Séance Radio, parler de Jalouse. Vous savez que David Fonquineux est un très bon écrivain, qu'il a écrit énormément de livres, et que pour une fois, Jalouse était un scénario original. C'était son deuxième film. Il avait décidé d'écrire avec son frère Stéphane, directement pour le cinéma. Et c'est une histoire universelle, puisque c'est l'histoire de Karine Viard, qui est un petit peu, qui est malheureuse parce qu'elle est seule dans la vie, elle a sa fille, mais elle est jalouse presque de l'aisance et de la beauté de sa fille, jalouse de ses copines. Voilà. Et c'est un film qui va au-delà de la jalousie, c'est un film qui parle, qui est universel, qui parle d'une femme meurtrie, seule, mais terriblement attachante, et tel que j'en parle, ça a l'air tragique. Non, c'est très, très, très drôle. Et Karine Viard y est exceptionnelle. Donc, on avait posé la question à David Fenkinos, sur la différence entre l'écriture des films et l'écriture d'un roman, et puis sur ses projets. 3 ans, vous m'avez dit, j'ai bien entendu, donc c'est plus difficile d'écrire un scénario qu'un roman.
Ah. En tout cas, je ne sais pas, parce que Charlotte, j'ai mis 10 ans à l'écrire. Il y a livres que j'ai écrit rapidement, il n'y a pas vraiment de généralité. Mais le film, c'est peut-être pas 3 ans d'écriture, mais monter un film, c'est certain que c'est bien plus difficile que d'écrire un livre.
Voilà.
Entre convaincre tous les partenaires financiers, les acteurs, et après monter le film, c'est une énergie colossale. Ouais. Ce qui est bien d'être deux.
Vous voulez l'adapter, Charlotte ?
Oui, Charlotte, il y a un projet de film international, notamment avec la productrice de Todd Haynes, justement, dont on parlait tout à l'heure. Moi, je vais écrire le scénario parce que je connais parfaitement l'histoire de Charlotte.
Tellement.
Mais on parlera tout à l'heure du sujet des adaptations. Moi, j'ai refusé d'adapter tous mes livres depuis La Délicatesse pour ne pas le refaire une seconde fois. Ouais. Et puis Charlotte, je devrais pas dire ça, mais j'espère un grand réalisateur. J'espère mieux que moi d'une certaine manière. Un film international.
Mais Jean-Pierre Améry, c'est un bon réalisateur. Il a adapté Je vais mieux,
Je vais mieux.
Qui sort bientôt. Il sort quand?
En janvier,
voilà. Et vous êtes content?
J'ai pas vu le film.
D'accord.
Et puis, je suis aussi content d'un autre très gros projet qui est, j'ai lu encore hier soir la nouvelle version du scénario. Donc voilà, ça se sait pas trop encore, mais Rémi Besançon adapte Le Mystère Henri Pic avec Fabrice Lucchini.
Tournage
en février, donc c'est bientôt.
Voilà, du scoop de chez Scoop.
Voilà.
Tournage en février.
Super. C'était David Fonquineux qui nous parlait de Jalouse et de ses projets, puisque plusieurs de ses romans vont être adaptés. Nous avions reçu aussi, c'était en mai dernier, pour la sortie de Telle Mère, Telle Fille, Noémie Saglio, la réalisatrice, qui avait monté son film avec Juliette Binoche, Camille Cotin et Lambert Wilson. C'était le pitch de la comédie était très drôle, puisque c'est Camille Cotin qui joue Avril, qui a une trentaine d'années, qui se révèle être enceinte, au moment où sa maman, qui est un peu à l'ouest, Juliette Binoche, et qui vient de réavoir une aventure de nuit avec son ex Amber Wilson, elle est enceinte elle aussi. Et ça va être la rivalité entre la fille et la mère, surtout que la fille, jouée par Camille Cotin, ne supporte pas que sa mère soit enceinte en même temps qu'elle. On écoute l'interview. Alors, est-ce que ça a été difficile? Tout le monde dit que c'est super compliqué à monter un film. Moins une comédie, c'est plus à la mode.
C'est moins compliqué. Après, on a pris un petit risque en prenant Juliette Binoche, qui n'est pas.
Vous n'aviez pas pensé à Valérie Le Mercier au début? J'ai lu ça dans mes fiches.
Ouais, on a pensé à Valérie Le Mercier, mais elle faisait son film et du coup ça a été tout de suite évincé. Moi, j'avais hyper envie de Juliette. Après, j'étais complètement, je me trouvais vraiment gonflée d'aller lui proposer ça.
Alors comment ça s'est passé?
Donc j'ai appelé son agent, qui était mon premier agent. Samuelson, et donc je lui ai dit, écoute, ça va te paraître un peu bizarre, mais voilà, je suis avec Camille Cotin et on pense à Juliette, on trouve, parce qu'il me fallait une femme, c'était assez difficile à caster parce qu'il me fallait une femme de 45 plus.
Ouais, un peu plus, mais qui soit
assez sexy pour que ce soit pas bizarre qu'elle tombe enceinte.
Elle est belle, vraiment belle.
Et qui puisse être quand même la mère de Camille, mais sans faire très compliqué. C'était vraiment. Et puis, puisse tomber enceinte. Donc, j'avais pas une liste non plus. Et puis surtout, j'adore Juliette depuis toujours. Donc, je l'ai appelée, je lui ai dit, est-ce que tu crois que... Il m'a dit, écoute, elle a assez envie d'une comédie, peut-être. Et j'étais là, genre, mon Dieu. Parce que moi, j'avais vraiment l'impression de demander le Graal absolu. Et elle a lu dans la nuit, elle était en tournage à ce moment-là de Ghost in the Shell en Australie. Ouais. Et elle a lu dans la nuit et on s'est skypé le lendemain et elle m'a dit, écoute, ça m'amuse, on y va. Génial. Et après, elle a été super là tout le temps, c'était génial.
Et alors, vous exploitez ses talents de danseuse, parce qu'on sait qu'elle danse.
Bah, j'exploite tout. On me donne Juliette, je prends tout. J'ai tout exploité. Oui, non, enfin, le rôle était déjà écrit comme ça, mais c'est vrai que c'est une excellente danseuse. Et ce qui est aussi m'a amené à penser à elle tout de suite pour ce rôle. Et elle adore danser, donc elle était trop contente d'avoir toute cette partie-là.
C'était une jolie surprise, Telle mère, telle fille, et aussi un film sorti le 5 avril qui a fait un petit carton, L'Ascension, de Ludovic Bernard avec Ahmed Silla, qui joue un jeune sénégalais de la cité des 4000 qui est amoureuse d'une jeune fille, Nadia, qui est jouée par Liz Belaïdi. Et dans son elle se méfie un petit peu de ce type parce qu'elle a envie d'avoir une relation sûre. Et dans son enthousiasme, il dit voilà, pour toi, je grimperai l'Everest. Et elle le prend au sérieux. Et
il
le fait pour de vrai. Il part au Népal. Il va s'apercevoir que quand on n'est pas tellement entraîné, c'est difficile de monter sur l'Everest. C'était tiré d'une histoire vraie, d'un bouquin. Et ce film, L'Ascension, avec Ahmed Silla, qui est une vraie révélation au cinéma, a bien marché. On écoute l'interview. Dans le film, le personnage de Samy, il souffre quand même, surtout pour les 2000 ou 3000 derniers mètres hauts. Est-ce que vous, ça a été un tournage un peu difficile?
Non, pas du tout. Ça a été vraiment une grande partie de plaisir, je pense.
Alors, je vais poser. Ludovic Bernard, est-ce que vous l'avez fait un tout petit peu souffrir
Il a pas mal souffert, le Ahmed Silla qui frime là devant le micro, qui frimait pas tous les jours. Il y a eu des journées très difficiles parce que ça grimpe beaucoup et puis au fur et à mesure du trek, les dénivelés sont de plus en plus importants. Les trois derniers jours, quatre derniers jours avant d'arriver au camp de base, c'est assez difficile. Il y a des 700 mètres d'un seul coup à avaler et il fallait quand même tourner parce qu'il y a une lumière absolument incroyable et moi je voulais tourner le soir, je voulais tourner à la tombée du jour.
Donc on entend des moteurs.
Donc voilà, on a eu des moments un peu de fatigue évidemment.
Très bien.
Du coup, vous êtes devenu un grand sportif.
Toujours pas. Je suis toujours à la recherche de mon côté sportif. Non, mais en fait, il m'en a vraiment fait voir de toutes les couleurs. Par exemple, je savais pas que j'avais le vertige et il a fallu traverser des ponts suspendus. J'ai fait les échelles pour de vrai. Il y avait 30 mètres de vide en dessous de moi.
Le mur de glace aussi,
j'ai fait. Non, mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est que dans le film, c'est Samy, il se dépasse, il va vraiment au bout de ses efforts. Et en vrai, pendant le tournage, c'est ce que j'ai fait aussi. Il y a vraiment des fois où je me disais allez, vas-y, encore un petit peu. Donc on était sans cesse en train de chercher la motivation pour continuer à marcher, pour se dépasser sur des plans. Donc
vous, Ludovic Bernard, est-ce que les 20 ans d'expérience que vous avez déjà en tant que réalisateur vous ont facilité le travail, votre expérience? Est-ce que vous avez trouvé quand même que vous avez bien maîtrisé où ça a été difficile?
Énormément, oui, ouais. Ça m'a facilité bien sûr la tâche parce que j'avais confiance en moi, j'étais pas inquiet de mes journées, je savais ce que je faisais. Après, le plus difficile sur ce film, ça a été la fatigue, de gérer la fatigue et de pas se laisser emporter la fatigue dans le laisser aller en se disant bon bah c'est pas grave, on fera ça, on fera pas ça ou on fera un peu moins. Donc c'est garder l'exigence très haute et malgré une fatigue tous les jours qui était de plus en plus grande. Voilà. Et garder surtout la lucidité sur le film, de ne pas perdre le fil conducteur du personnage d'Amen qui mène le film tambour battant du début à la fin. Quoi. Donc ça, c'était ça.
Voilà, vous venez d'entendre Ludovic Bernard et Ahmed Silla, le comédien dans L'Ascension. C'était une des petites pépites de cette année. Voilà pour ce best-of avec tous des films que vous pouvez revoir maintenant en DVD ou en téléchargement. Dans un instant, on se retrouve, mais avant, on va rendre hommage à notre idole, à notre héros national, Johnny Hallyday, qui nous a quittés aujourd'hui à 74 ans. Souvenez-vous, il y avait ce film incroyable qui s'appelait Jean-Philippe, réalisé par Laurent Tuel, avec Fabrice Luchini. On écoute un morceau de la bande originale.
Que faut-il avoir dans le sang de déchirure et de folie? Pour les mécanes de le dire,
l'amour, le danger, les défis. Je fais de blanc, de noir, de blues, de désespoir, une rock'n'roll star. Et faut-il garder dans le cœur toutes les blessures de l'enfance? Ce mal de vivre d'adolescent et des océans de violence. C'est fait de rouge, de noir, de peur et puis de gloire. Une rock'n'roll star, une rock'n'roll star.
Voilà un extrait de la bande originale Rock'n'Roll Star de Jean-Philippe de Laurent Tuel. Un hommage évidemment à Johnny Hallyday qui nous a quittés aujourd'hui et dont vous allez entendre très souvent les chansons dans les jours qui vont suivre. Voilà, parce qu'on ne peut pas se passer d'écouter Johnny Hallyday. Dans un instant, on se retrouve pour parler des événements cinéma à venir.
Les événements cinéma sont dans la grande séance.
Alors, il y a un festival de cinéma européen qui devient de plus en plus important, c'est celui des Arcs. C'est la 9e édition, c'est du 16 au 23 décembre. Il a été lancé en 2009, il y aura 120 films à découvrir sur tous les sites de la station. Il y a des événements, des concerts, une course de ski. Il y a 10 films en compétition, car il y a une compétition aux Arcs. Le prix, c'est la Flèche de Cristal. Le jury est composé de la Française Céline Sciamma.
Ah, très bien.
Superbe, hein. Clotilde Courault sera à ses côtés, Natacha Régnier, le grand réalisateur hongrois Laszlo Nemes, vous vous souvenez, le fils de Saul, qui était un très très beau film, Grand Prix à Cannes en 2015, et le compositeur russe Evgeny Galperin. Il y a aussi, en dehors de la compétition officielle, tout un focus sur le cinéma allemand avec plein de films, dont des réalisés par Maren Adé, Christian Pezzot, etc., et de nouveaux talents. Donc vous voyez, c'est un excellent festival. Donc je vous rappelle, du 16 au 23 décembre, le Festival Européen des Arcs. Et puis je vous rappelle que le prix Louis Deluc est un prix important. C'est la 75e édition quand même. Il est attribué le 15 décembre prochain, donc la semaine prochaine.
Ah,
dans les favoris, 120 battements par minute de oui. Robin Campillo, on en a parlé tout à l'heure. Barbara de Mathieu Amalric.
Ah, très bien.
Les fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin. Voilà.
C'est moins, version courte, moins version longue.
Oui, c'est ça.
Je pense que c'est la version qu'on a vue à l'écran. Trois parmi les neuf films en lice pour le prix Louis Deluc. Bon, on appelle ça le Goncourt du cinéma. Alors, je vais vous citer quand même les autres films en course. Il y a La Belle dormant. Que j'ai pas vu. Vous l'aviez vu, vous?
Non, pas du tout.
Personne n'a vu. D'Adolfo Arrieta. Carré 35 d'Éric Caravaca. Donc, on dit que c'était extraordinaire. Je ne l'ai pas vu, mais je le rattraperai.
Ah là là,
parce que là, tout le monde est unanime pour dire que le comédien Éric Caravaca, pour son coup d'essai, a fait un coup de maître avec ce très beau film, ce très beau documentaire. Les gardiennes de Xavier Beauvois, qui sort d'ailleurs aujourd'hui. I'm Not Your Negro de Raoul Peck, Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc de l'incontournable Bruno Dumont,
oui,
et Makala d'Emmanuel Gras. Voilà, l'an dernier, je vous le rappelle, c'était Une vie de Stéphane Brisé, qui n'a d'ailleurs pas très très bien marché malheureusement, parce que c'était très beau en fait, quand on s'en souvient, adapté de l'œuvre de Maupassant, qui avait été récompensé. Dans un instant, on se fait un petit bilan de l'année cinéma 2017.
La grande séance, le débat.
Alors, mes amis Alexis, Marla et moi-même Bruno, allez, on va se débarrasser. Moi, je vous dis, je vais aller très vite, au pif comme ça, en gros, à la louche. J'ai beaucoup aimé l'atelier de Laurent Cantet.
Ah oui, c'est
pour moi, j'ai trouvé que c'était un petit bijou.
Aussi.
Voilà. Avec Marina Foïs. C'est une très belle histoire autour des mots. J'avais dit, il y a eu Entre les murs. Là, c'est Entre les mots, M-O-T-S. Cette histoire. D'un groupe de jeunes à La Ciotat, je crois que c'est La Ciotat, qui sont autour d'une écrivaine jouée par Marina Foïs, qui veut leur apprendre à écrire un polar. Et le film va parler du mal-être de toute une génération. Bon, j'ai trouvé ça assez remarquable. The Square, je sais qu'Alexis n'est pas d'accord, de Ruben Östlund, qui a eu la Palme d'Or.
Très mitigé, hein, sur
que
The Square,
j'avais pronostiqué comme Palme
d'Or. Oui, c'est vrai, mais t'es le seul, je crois.
Matin. Voilà. J'avais pronostiqué, je le répète, hein, je me fais ma propre pub, tous les prix du palmarès en ordre, sauf que j'avais inversé Faute d'amour de Jacques Inceff et le Robin Campillo, mais à part ça, j'avais le palmarès exact. Voilà, il faut le dire. The Square de Ruben Östlund, qui est, en, je suis content, qui est encore dans les salles et qu'il faut voir, même si le film dure 2h20, c'est un film sur notre époque, c'est un film sur le politiquement correct. C'est très grinçant, très percutant, plein d'acuité, très dérangeant, et j'aime beaucoup. Je l'ai vu 3 fois d'ailleurs. Voilà.
3 fois pendant 2h20.
Et puis mon 3e, je sais pas. C'est pendant que vous parlez, peut-être que j'en trouverai un 3e.
Ah.
Mais comme quoi, j'ai pas adoré plein de films, mais vous allez peut-être me donner mes idées. Honneur aux dames, Marla.
Alors moi, c'est un film du tout début de l'année, c'était Nocturnal Animals. Qui va, je pense,
ça m'a un peu dérouté, mais
être mon numéro 1, vraiment. Alors j'aime beaucoup Tom Ford. J'avais bien aimé A Single Man, qui m'avait pas épaté comme je l'avais vu chez d'autres blogueurs, mais qui avait été déjà très beau visuellement. Et là, Nocturnal Animals, peut-être parce que j'aime la littérature, il y a tout un jeu sur le cinéma, sur le roman. C'est cette femme qui reçoit le roman écrit par son ex-mari.
Ouais.
Et ce roman parle d'elle. Il faut voir comment ça parle d'elle et comment ça parle du couple. C'est remarquable. Ouais.
Et moi, j'étais fatigué. J'étais le voir en salle. J'étais seul dans cette salle et j'ai dû avoir des éclipses parce que j'ai rien compris.
c'est complexe. Sincère. Il faut le suivre. Ouais, ouais.
Non, c'est votre film. Il y en avait d'autres.
Il y en a d'autres. Oui, il y avait Visage Village d'Agnès Varda.
Je l'ai oublié.
Qui est extraordinaire.
Ah ouais,
j'aime beaucoup la photographie. Je connaissais déjà JR, d'un autre projet qui s'appelait Face to Face, qui est un très beau projet qui s'est passé en Israël, où il avait décidé
de
photographier
les Israéliens
absolument face à face, au sens très littéral, avec des grandes photos immenses comme il sait les faire. Et
il faut rappeler que Visage Village est une balade, une promenade. JR, ce grand photographe dont vous parlez, ce jeune et grand photographe urbain, accompagne Agnès Varda à travers la France et ils vont à la rencontre des gens, voilà.
Ouais.
Et c'est
et
magnifique.
Pas n'importe qui, pour
et pas
le
n'importe
coup.
Qui, c'est magnifique. Moi, je l'ai revu le film, il a très très bien vieilli dans ma tête, il est très beau. Alors, mon cher Alexis.
Ouais.
Alors, vous.
Là, justement, c'est l'heure des tops, donc c'est le temps de rebattre toute l'année. Ah non, justement, attention, je sais que de toute façon, sur mon film préféré, on sera pas du tout d'accord, puisque c'est Blade Runner 2049.
Ah oui. Formidable, voilà. Alors, moi je l'ai beaucoup aimé aussi.
Mon fils m'en a reparlé, il m'en a tellement bien reparlé qu'il m'a ébranlé dans mon jugement.
Dans
parce que
de certitude.
Voilà. Parce qu'il m'a dit qu'il trouvait en effet qu'il y avait peut-être des défauts au film, mais la mise en scène était tellement magnifique. Faudrait que je le revoie un jour, je suis en pleine forme.
Non, mais il y a plein de choses aussi dedans, mais bon, à l'heure de faire des tops, donc moi je remarque tous les films qui m'ont marqué. Et là, ce qui m'énerve particulièrement cette année, mais je peux m'en prendre à moi-même ou au box-office, c'est que mon top, en fait, il va scinder juste en deux parties. Il va y avoir soit que des films américains. Donc dans les films américains, Blade Runner 2049, j'ai Track à Boston, Un jour dans la vie de Billy Lynn, Lost City of Z, Song to Song, Les deux Malik. Enfin voilà. Et de l'autre côté, j'ai quasiment que des documentaires comme Visage Village, Carré 35, We Blew It de Jean-Baptiste Rey. Nothingwood ou le Vénérable W qui parlait justement en avance du drame des Rohingyas.
Ah, c'était pas mal du
de
tout.
Barbet
Schroeder. Barbet Schroeder, pas mal, c'était fort ça.
Donc en fait, mon top, ça va être soit des gros films américains, soit des documentaires.
Mais Manchester by the Sea, il était sorti fin 2016.
Oui, c'est sorti l'an dernier.
Ouais, c'est ça. Et là, La Land aussi.
Ah non, il était sorti au début d'année.
Non, c'est cette année. Je l'aime pas, ce film, en même temps.
A raison.
Je l'aime pas.
Ah oui, vous l'aimez pas trop. Moi non plus. Oh là là.
Non,
incroyable.
Vraiment pas.
Et pour trois personnes, mais les temps ont changé. Trois personnes qui n'ont pas adoré La La Land.
Pourtant, il était annoncé meilleur film de l'année dès le mois de janvier par première.
Oui, absolument.
Et annoncé pour les Oscars gagnants. Et on sait ce qui se passe.
Vous
n'avez
pas eu une grosse déception?
Alors, moi, oui, parce que je suis une grande fan des comédies musicales. Et je me suis dit, ça s'est taillé pour moi. Ça a été fait en plus par le réalisateur Damien Chazelle de Whiplash. Oui. J'avais adoré.
Ah non, mais
Whiplash.
Marla, je vous ai une autre grosse déception dans l'année.
Ah, une autre
film attendu.
Oui, une autre grosse déception. Oui, peut-être. Tout récemment, le fameux Happy Birthday qu'on m'a un peu survendu et que j'ai trouvé juste ridicule et terrible et très mauvais.
T'as
déjà raconté l'anecdote à la dernière émission.
Oui,
tu t'es trompé de
salle. Je vais voir quand même Carré 35. Et je tombe sur Happy Birthday.
Quelle horreur.
Hein. Voilà,
on va pas en parler trop longtemps parce que je suis déjà énervé.
Et vous, une déception, non?
Moi, c'était étrange parce que une déception, c'était Alien Covenant, mais en fait, en le revoyant de Ridley Scott, je le revois à la hausse bizarrement.
Vous l'avez revu?
Ah oui, je l'ai revu et plus je le revois, plus je le réévalue. Donc j'ai trouvé ça quand même très étrange.
Ouais. Mais moi, c'est lui qui avait fait le premier Alien et franchement, il a baissé. On va se retrouver dans un instant. temps pour notre quiz.
Ah. Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
J'ai peur que ce soit trop facile. Voilà, j'ai peur Sébastien que ce soit trop facile. Alors attention, c'est un spécial Alain Chabat à l'occasion de la sortie de Santa et compagnie. Je vous rappelle qu'aujourd'hui sort ce film incroyable que moi j'ai trouvé très drôle et je suis pas le seul. L'histoire d'un Père Noël qui vit donc au pôle Nord là, quelque part avec sa femme Vanda qui est jouée par Audrey Tautou. Le Père Noël est joué par Alain Chabat qui a gardé d'ailleurs pour la promotion sa barbe, etc. Et puis il va descendre sur Terre parce que ses lutins, les 92 000 lutins tombent malades. Il faut qu'ils trouvent 92 000 tubes de vitamines. Et là c'est Chabat, c'est un peu les visiteurs. Hein, c'est le Père Noël qui tombe sur Terre, qui n'a jamais connu les enfants que lorsqu'il dort. Mais il va les trouver un peu chiant, quoi, les enfants.
Trop remuant, en fait.
Et un peu remuant. Et il y a plein de gags. Et c'est drôle pour les parents et c'est drôle pour les enfants. C'est un film qu'on peut voir de 7 à 77 ans. Il n'y a aucune vulgarité, aucune violence. Il y a un très joli couple formé par Pio Marmaille et Gosh Shiftem Farani. Donc tout y est. Allez voir, c'est notre Disney de Noël à nous. Bon, attention, on commence. Numéro 1, ce sont spécial Alain Chabat à l'occasion de la sortie de son film. Numéro 1.
Et bien laisse.
C'était
le profil
de la
type de serial killer.
Alexis, là, c'était de la peur. Alors, attendez, on va faire
une...
Comme vous êtes que deux et moi que je connais les résultats, je fais les points. Allez, attention, Alexis et Marla, c'est parti. Le deuxième.
Un cri d'animal au camp, on se retrouverait séparés.
Ok.
Je sais assez bien faire le canard. Le mec de Bruce, la voix.
Marsupilami.
Marsupilami.
Oh là là.
Sur la piste du Marsupilami.
Il y en a plein que j'ai pas vu, hélas.
2-0. Sur la piste du Marsupilami.
Hélas.
Attention, il y a Chabat dans ce film.
Ça va, Monique ?
Ça va, le grec ?
Ça va, les gars ?
Ça va ?
Eh ben, mon fifi, t'es à l'eau ?
Ouais, bon, je t'expliquerai. T'étais où, le grec ?
J'avais une sciatique porte-maillot.
Une asiatique porte-maillot ?
Sérieux ? J'arrête avec les gonzesses.
Il y a Edouard Baird.
Il est tombé sur mon portable.
J'ai reconnu la voix.
Chabat.
Le goût des autres.
Non, une histoire de chevaux. Vous l'avez peut-être même pas vu.
Turf.
Fifi.
Ça me dit rien du tout. C'est
la Fabio Conte qui a été.
Vous n'allez pas voir ce genre de film.
C'est un méga fou.
Attention, un grand classique. Le 4.
Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrée
Didier.
Comme ça lui sentir le cul.
Bravo,
là, je l'adore pour
Marla.
J'aime beaucoup Didier.
Didier.
Important,
attention,
ça,
le numéro 5, mais alors ça c'est... Je sais pas, il doit faire une voix dedans. Allons-y, c'est un film américain.
C'est alors que le Rikiki, petit homme aussi petit qu'une petite souris toute minable, se retrouva dans les griffes du chat géant.
Ah, ça vous obsède réellement les histoires de taille, alors?
Non, c'est pas une question de taille.
Bah si, vous dites que je suis une petite souris et vous, un chat géant.
La nuit au musée 2.
Bravo, la nuit au musée 2.
T'as reconnu ça, moi,
incroyable,
respect,
ah ouais, parce que pour reconnaître
il
ça
incarne
en,
Napoléon.
En VF. Attention, un classique.
Telle histoire.
Pas facile à supporter, hein. Alors, le mieux pour nous, pour tout le monde, c'est que vous vous cassiez comme vous êtes venu dans votre joli minibus.
S'il te plaît, Olivier, est-ce que tu pourrais demander à ton mari qu'il ait la gentillesse de passer un
peu de temps? Ah oui, c'est José Malasco.
5 points contre 1, désolé.
Ah oui, là, je me suis fait ratatiner, j'y attendais.
José Malasco de 1995. Oh, un film beaucoup plus récent, 2013.
Le bœuf en étage, c'est un putain de hamburger. Non mais c'est un hamburger. Regarde, t'as pris quoi toi?
Sauté d'agneau et galette turque.
C'est un kebab.
Pas, prends-moi la main.
C'est énorme.
Prends-moi ta main. Donne-moi ta main. Non, je sais plus.
Le mec pète, il dit j'ai créé un
jusqu'au
parfum.
Bout là. Ah, c'était non. Les gamins.
Ah oui, tout récent.
Bah, d'Anthony Marciano
pas
de 2013. Là aussi, c'est presque un classique, le numéro 8.
Non mais je sais. Regardez, elle est morte de vieillesse.
Alexis, vous êtes très fort.
Franchement, tu les as tous vus, surtout ton souvenir.
Un spécialiste de Chabat, une bible. Voilà, c'est 3 R majuscules et 3 petits R minuscules. Ça date de 2004 quand même, le temps passe vite.
Les gens n'arrivaient pas à dire le titre en demandant la place au cinéma. Donc, il y en a qui ont souffert.
Et à propos du temps qui passe, moi j'ai rencontré Chabat il y a 36 ans. On était dans la même radio. C'est dingue, ça ne nous rajeunit pas. Il y a 36 ans. Voilà. Le numéro 9. Oh là, c'est difficile. Je ne savais même pas qu'il y avait Chabat là-dedans. On y va.
Ton prédécesseur, il s'est pendu il y a de ça 15 jours.
Non.
Non.
C'est pas le goût des autres, c'est pas...
Non, mais c'est comme, non, comme ça, le goût des autres.
Crois-moi Stéphane, accroche-toi et je te garantis.
C'est, c'est Bakri Jaoui encore?
Non, non, c'est un film de Michel Gondry.
La science des rêves.
La science des rêves.
Martin,
ça vous sauvait l'honneur.
Les deux.
Mais qu'est-ce qu'il faisait Chabat dans La science des rêves?
Un petit rôle, je sais pas exactement, ouais.
Alors attention là, ne vous disputez pas.
Ah.
C'est facile.
Ça va être donné.
C'est facile, c'est comme le buzz. Là.
Je
on
vais
tape
faire
dessus.
Avoir par Alexis.
Attention,
encore.
Le numéro 10.
Je dis juste que culturellement parlant,
Astérix sur Obélix, pas Cléopâtre.
Voilà, Mission Cléo.
Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne.
Bah hein, voilà, ratatiné comme prévu.
Alors, on fait les points parce qu'il y a un film que vous n'avez pas su le titre d'un film. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points pour Alexis, 2 points pour Marla. Et on se retrouve dans un instant.
La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
Est-ce que vous avez en tête des films que vous attendez en 2018? De quoi vous avez entendu parler? Est-ce qu'il y a Alexis?
Bah moi c'est, enfin, on les aura que l'année prochaine justement. C'est le doublé Spielberg, à la fois Pentagon Papers qui sera diffusé à la fin de cette année aux États-Unis, mais qui sera diffusé au mois de février, je crois, en France, et Ready Player One qui sortira début mars. Donc on a à la fois un film plus pour les Oscars,
deux Spielberg
la même année, et à mon avis, les deux films feront partie de la plupart des top 10 l'an prochain.
C'est vrai. Carrément. Alors c'est quoi Pentagon Papers?
Pentagon Papers, c'est un film un peu plus politique avec Tom Hanks, Meryl Streep, qui est parti pour être un des films oscarisés cette année. Et Ready Player One, ça va être un film avec des effets spéciaux dans tous les sens,
ça a l'air vraiment bien.
Le monde des jeux vidéo et tout ça, et à mon avis qui va faire un gros carton box-office.
Voilà. Et tous les geeks qui vont se précipiter certainement
au salle. Il y a des événements à venir, vous n'avez rien en tête.
Là comme ça, c'est difficile.
Et ouais, vous Marla ça...
Bah, à part ce que Poenkinos disait, c'est-à-dire ses propres projets, là... L'adaptation de son livre, il en parlait tout à l'heure en interview, on l'a repassé, je ne sais plus quel livre c'est.
Ah bah il y a un film de Jean-Pierre Améris qui
voilà,
justement était
ça,
un peu décalé.
Adaptation
d'un de ses bouquins de Jean-Pierre Améris qui va sortir, c'est Je veux plus ou quelque chose comme ça.
Oui,
c'est ça le titre.
Bah après moi les seuls trucs français que je sais qui arriveront en 2018, c'est tout ce que je crains, c'est La Ch'ti de famille, c'est Spirou et Fantasio, c'est tous les films que j'ai pas envie de voir.
Ah,
oui, c'est les gros succès.
Oh c'est dur. La Ch'ti de famille, ça peut être pas mal.
Il y a les tuches,
il y a les tuches.
Oh là là,
les tuches à l'Elysée.
Ah bon, c'est le 4, le 5, on en est où là?
Mais ça va faire. Non, c'est le 3. C'est le 3, je crois.
Le 4, je crois.
Non, c'est le 3, c'est les tuches 3.
Il y a eu les tuches 3 déjà.
Non,
ah oui, les tuches 3. Bah,
c'est les tuches 3. Voilà.
J'ai vu la bande-annonce.
Non, mais ça va faire des rentrées, ça. Moi, je suis pour. Bonne fin d'année. Voilà.
C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.